La coupure était peut-être pas exactement au bon moment, mais je voudrais terminer quand même des choses qui tournent autour de cette réalité géographique de la Bible. Ce peuple à la jonction, toujours à la jonction, dangereuse, difficile et riche de civilisation. Je dis un tout petit mot, même si je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne vous dirai rien de bien intelligent, sur l'idée des recherches archéologiques qui existent, qui sont là. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste. Simplement, on est en train de chercher des clés pour lire la Bible. Or, il ne faut pas confondre la Bible avec un manuel d'archéologie. Voilà la seule chose que j'ai envie de dire. Et ne pas être troublé quand les archéologues découvrent un certain nombre de choses qui ne concordent pas avec la Bible. Parce que c'est de poser à la Bible une mauvaise question. On voudrait que ça concorde exactement, mais non, ça ne concorde pas. Eux n'avaient aucune raison de vous faire un cours de ce qui n'était pas l'archéologie, mais ce qui était à leur époque. D'autre part, la Bible, c'est une relecture sans arrêt du passé et les données géographiques, culturelles, de monuments sur ce passé sont largement, évidemment, largement revues et souvent idéalisées. Le magnifique temple que Salomon, avant 930, a construit pour le Dieu d'Israël, qui n'était pas à ce moment-là le Dieu unique, ne devait pas être un temple magnifique, parce qu'ils n'étaient pas riches, que c'était quand même si à l'époque de Salomon, il y a eu un enrichissement, donc il y a dû avoir un effort. Mais ce n'est pas la splendeur qui est décrite dans la Bible. Alors du coup, ça fait des querelles, surtout avec des scoops journalistiques. Ah, on a découvert un truc qui montre que la Bible a eu tort. Ah, on a découvert que lorsqu'ils ont pris Jéricho, Jéricho était en ruine. Mais ils n'ont jamais pris Jéricho. Ils se sont installés, effectivement, dans un pays en ruine. Et l'histoire un peu précise des rois telés de Canaan sous la domination égyptienne montre qu'un peu avant l'an 1000, les villes, ces petites villes dont Jéricho, étaient toutes en train de s'effondrer parce qu'on est en train de passer de la fin de l'âge du fer à l'âge du bronze, etc. etc. Les archéologues, un peu au regard assez large, vont vous expliquer ça. Alors, la Bible, mais enfin, ils ont tourné 7 fois autour de la ville et à la 7e fois, les murailles tombèrent. Mais ça, c'est Victor Hugo. Bon. La Bible ne vous raconte pas des salades, elle relie l'installation dont on sait très peu de choses à un moment donné où ça a été possible de ces tribus nomades dans des villes, ou des petites villes, ou des gros bourgs qui étaient en train de tomber en ruine. Elle le relie comme une conquête. Josué conquistador, une conquête, on est rentré à main forte et à bras étendus, l'Éternel nous conduisant. On raconte, c'est la chanson de Roland. Ils étaient quoi, à Roseville, une poignée. Voilà, on raconte en idéalisant, en grandissant. Et du coup, on a fait toute une histoire à propos de Jéricho et autre chose, mais les exégètes qui ont lisé la Bible depuis longtemps disent, mais on le savait. Ils prennent une ville à côté de Jéricho qui s'appelle Aï, et Aï, ça veut dire la ruine. Alors en fait, ils ont pris une ruine, tout le monde le sait. On le sait bien que c'est un récit idéalisé pour faire de l'installation un récit de conquête. Ça va ? Voilà. Voilà, ne pas s'inquiéter outre mesure d'une archéologie qui a ses méthodes et qui découvre des tas de choses, pas tout à fait en accord ou en désaccord profond avec le texte biblique. Le texte biblique n'est pas fait pour ça. Ça va ? Et il faut le regarder de près pour voir que des fois, il ne dit pas les sottises que la tradition orale postérieure et ce qu'on raconte lui a attribué. Voilà. La Bible n'est pas un document historique, c'est la bibliothèque d'un peuple. On va y arriver avant un dernier point qui pourrait nous entraîner très loin. Je dis juste un mot. J'ai dit réalité géographique, donc une terre. Alors, je sais bien que la question est brûlante aujourd'hui, et elle a toujours été. On a droit à une terre, on n'a pas droit à la terre. La terre de nos ancêtres, la terre que Dieu nous a promise, la terre où on s'est installé. Bon. La Fontaine disait très bien, le premier occupant, et c'est une loi plus sage, la terre. Oui, il y a effectivement la promesse d'une terre, très clairement, dans la Torah, aux très grands ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, une terre et une descendance, toujours sous forme de promesses. Il y a essentiellement le souvenir, et on va en reparler, d'un exode. Et plutôt que de terre, moi je parlerai volontiers d'exode. Tandis que je le retrouve. Voilà, avec... Oh, j'y arrive, je vais dans le mauvais sens. À nouveau Chagall, parce qu'il est extraordinaire. Voilà, le peuple qui, sous la direction de Moïse, monte vers quoi ? Vers la terre ? Vers Dieu ? Vers quoi ? Traverse la mer. Bon. Le vrai souvenir, c'est le souvenir d'un exode, d'une libération, d'un salut. On en reparlera. On a été arraché à l'esclavage. Qu'il soit égyptien est peut-être une figure, mais on a été arraché un jour à l'esclavage et Dieu nous a conduits et continue de nous conduire vers la terre qu'il nous donnera. Et puis très vite, on ajoute des conditions. Si tu n'obéis pas à ma loi, si tu n'accueilles pas l'étranger, si tu ne soutiens pas la veuve et l'orphelin, la terre te vomira. Et cette terre, ils l'ont, au fond, très vite reperdue. Et c'est dans la situation d'exil à Babylone au VIe siècle qu'on va surtout relire cette histoire de l'exode. Voilà. Il faut quitter l'exil, ça oui, ne pas vivre la terre comme un exil, mais vivre la terre comme une marche vers le Dieu, le lieu où Dieu nous emmène, vers Dieu lui-même. Donc, il faut garder, quand on a ce problème de la terre, en tête que la terre, elle est toujours envisagée de deux façons, un lieu d'exil ou un lieu d'exode qui nous conduit vers la terre de Dieu. Pas nécessairement vers notre terre. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. J'enlève la terre à personne, tout peuple a droit à sa terre. Je vous dis quelles sont les catégories opératoires dans la Bible. C'est beaucoup plus que terre, et la terre, elle est toujours promise. Elle n'est jamais. Et c'est la catégorie d'exil dont il faut sortir et dont Dieu nous délivre. Il nous délivre comment ? En nous faisant traverser la mer et la mort, en nous faisant traverser le désert, pour rentrer chez nous, mais en fait, on continue à être en exode. Et ça se poursuit dans tout le Nouveau Testament. L'idée que la foi chrétienne vous met en exode, en marche vers. Voilà, en marche vers. Voilà, j'arrête là-dessus. C'est juste pour mettre en place des clés. Et maintenant, j'entre dans le livre. Voilà, je quitte les réalités géographiques et je rentre un peu plus dans les réalités littéraires. Dans le livre, la Bible, c'est un gros livre, vous l'avez vu là-bas. Quand on veut le réduire, c'est écrit tout petit et on ne peut plus le lire, surtout à un âge que j'ai. Et donc, il faut des lunettes, une loupe, etc. En fait, la Bible, ce n'est pas un livre, ce sont des livres. En grec, ta biblia, c'est un collectif. Ça n'a jamais voulu dire le livre. Ça veut dire la collection de livres. Voilà. C'est une bibliothèque. Alors, l'appeler la Bible, ça, c'est un terme, au fond, qui va être un terme chrétien, essentiellement réservé aux chrétiens qui vont, au fond, reprendre à leur compte cette collection. Mais il y a la collection. Et cette collection, elle est faite de livres qui ont été écrits par la tradition juive, jusqu'à ce que s'y ajoutent, alors on va reparler des langues, un certain nombre de textes qu'ensuite les juifs rejetteront. Et les chrétiens vont récupérer tout ça pour ajouter leurs propres écrits, le Nouveau Testament. Mais toujours pour ajouter des collections. Le Nouveau Testament aussi, c'est une collection. Il y a 4 évangiles, il y a des actes, il y a des lettres, une série de lettres, il y a une apocalypse, voilà. Une collection de livres. Alors, ces livres, je vous en ai suffisamment dit pour voir qu'on ne savait ni les dater exactement, même si on repère. Alors, les prophètes datent souvent leurs livres. Paroles ou visions, ou parfois paroles que vit. On a vu des paroles. Il y a toujours un mélange dans le prophétisme entre vision et parole. On avance vers la parole, mais il y a toujours lié une vision. Parole que vit le prophète Amos, parole que vit un tel. Il y a bien un nom, et ça correspond à une époque royale, souvent avec un roi, parce que les prophètes, c'est sous les rois. Mais comme je vous l'ai dit, ensuite, il y a des écoles, c'est relu, c'est repris. Donc, on ne sait pas les dater exactement. On ne sait pas les attribuer à un auteur. J'ai pris l'exemple d'Isaïe tout à l'heure. Je prends l'exemple d'Amos maintenant. Pourquoi Amos ? Parce que Amos, c'est le plus ancien des prophètes dont nous avons des écrits. Il y a eu Élie tout à l'heure, mais Élie, c'est la légende orale. Il n'a rien écrit. Amos, on a un livre d'Amos. Voilà, on a un livre d'Amos, Amos qui a vu ou qui a parlé sous le règne de tel ou tel roi. On est en gros en 740 avant Jésus-Christ. Dans le royaume du Nord, on va en reparler, en tout cas autour de Samarie. On n'est pas à Jérusalem. Le livre d'Amos se situe à une époque, on le voit à travers le livre, de prospérité économique, avec développement des grandes propriétés, autour notamment de la cour royale. C'est toujours les mêmes qui ont toutes les terres et qui les accaparent. Et donc, développement économique intéressant, mais en même temps, paupérisation excessive de la paysannerie. On s'enrichit sur le dos de la population qui ne cesse de payer des impôts, d'autant plus que la cour royale elle-même paye un certain nombre d'impôts à la Syrie. Donc il faut avoir de quoi payer les Assyriens et de quoi s'enrichir soi-même. Or, ce vague contrat offert par la Syrie, payez-moi des impôts et je vous laisse tranquille, bat très fort de l'aile. Et le prophète qui, les prophètes sont souvent des analystes politiques, je l'ai dit tout à l'heure, le prophète sait très bien que cette façon de s'enrichir sans s'armer, sans aucun regard sur les risques qu'on peut courir avec la Syrie derrière, va conduire très rapidement à une mainmise complète de la Syrie sur la région. Et de fait, la région sera, en 721, mise à sac par la Syrie, Samarie détruite, et ce que font les Assyriens, ce que ne feront pas plus tard les Babyloniens, ce sont des déportations de la totalité de la population. Alors vous allez me dire, ça fait peut-être que 25 000 bons hommes, ou 30 000, ou 50 000. Mais on les déportait tous, paysans compris. On les installait ailleurs et on réinstallait sur place d'autres populations qui avaient d'autres traditions, d'autres religions, etc. Tout pour perdre l'envie de se révolter. Et ça recouvre déjà le conflit qu'il y aura entre Judée et Samarie, Juifs et Samaritains qui viennent d'ailleurs, qui ont été déportés. C'est la Crimée de Staline. On déporte les Tatars et on met des Russes à la place. Et comme ça, on est tranquille pour au moins un certain temps. Voilà. Amos sent ça venir. Et lui, il défend le peuple du pays, les pauvres, les paysans, et il demande aux riches et aux rois et à la cour royale et aux riches propriétaires de changer de politique. Et donc, il annonce un avenir catastrophique. C'est pourquoi ils vont être déportés. Alors ça a peut-être été relu et un peu précisé après la déportation. Le livre d'Amos, il a été bien sûr largement relu, on va le voir. Mais enfin, là, il y a des choses anciennes. En tête des déportés est finie la bande des vautrés. C'est pas triste, hein, le livre d'Amos. Finie la bande des vautrés. Et les femmes riches, ils les appellent les vaches de Bashan qui s'engraissent sur leur canapé. C'est costaud. Jamais je n'oublierai aucune de leurs actions. En ce jour-là, je ferai coucher le soleil en plein midi. J'enténèbrerai la terre en plein jour. Je ferai tourner en deuil vos fêtes. Je vous ferai porter le deuil comme celui d'un fils unique. Les évangélistes, quand ils ont raconté la mort de Jésus, ils connaissaient par cœur ce texte. Vous voyez pas des ressemblances, non? Le ciel qui s'enténèbre, il fait une nuit de la sixième à la neuvième heure, le deuil d'un fils unique. Bon, Amos n'annonçait rien que la catastrophe. Mais voilà. Tout le livre d'Amos est un sinistre, c'est trop tard. Voilà. C'est trop tard. Il y a un moment où il y a peut-être, si vraiment vous vous convertissez, si vous changez tout, peut-être ça pourrait s'arranger, Dieu pourrait vous sauver. Mais c'est un triste peut-être. Ailleurs, c'est le gong, c'est trop tard, ça va mal finir. Et ça a mal fini. Or, c'est trop tard pendant 9 chapitres, 3 quarts. Le livre d'Amos a 9 chapitres, il se termine en 9-15, et jusqu'à 9-10, il y a l'annonce du désastre. C'est par l'épée que vont mourir tous les coupables de mon peuple, eux qui disaient, il ne s'approchera pas, il ne nous atteindra pas le malheur. On a Dieu pour nous, évidemment. Et ça continue. Ce jour-là, je relèverai la hutte croulante de David, j'en colmaterai les brèches, j'en relèverai les ruines, je la dresserai comme au jour d'autrefois. Voici que viennent des jours, oracle du Seigneur, où les montagnes ruissellent de vin et de blé. Je change les destinées de mon peuple Israël. Ils rebâtissent les villes dévastées. Ils y plantent des vignes pour en boire le vin. Ils cultivent des jardins pour en manger les fruits. Je les plante sur leur terre et ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit le Seigneur ton Dieu. Qui c'est qui a écrit ça? D'abord, la hutte croulante de David, ça ne peut pas être le royaume du Nord. Parce que ce royaume du Nord, ce n'était pas la dynastie de David. La dynastie de David, c'est le Sud. Ceux qui ont écrit ça, c'est des gens en exil qui voient la possibilité du retour et qui relisent le livre d'Amos comme une annonce, non pas seulement de la chute du royaume du Nord et de Samarie, mais de la chute de Jérusalem un siècle et demi plus tard, du fait qu'ils sont en exil détruits, et on sait pourquoi, parce que la conduite a été la même au sud qu'au nord, et maintenant se lève une espérance, et on ajoute cette espérance à la fin du livre d'Amos. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de livre prophétique, et quasiment pas de psaumes, sauf deux ou trois, qui se terminent sur le désespoir. L'espérance d'un avenir, d'un Dieu qui ne nous lâchera pas, est partout, 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 et il faut le dire. Et on le dit en rajoutant quatre versets à un livre désespérant de 9,5 chapitres. Mais on le dit, et désormais, ça fait partie du livre d'Amos. Ça va ? Parce qu'il faut, et on croit, que l'espérance triomphera. D'ailleurs, on retournera à Jérusalem. Ça marche ? Alors maintenant, question. Qui a écrit le livre d'Amos ? Le prophète de 740, certainement un bon nombre d'oracles, mais tout ça a été certainement revisité, relu, retravaillé et conclu deux siècles après, 540, ça va bien, 520, un peu plus de deux siècles après, par ces mots d'espérance, ça va ? C'est un exemple, mais voilà, pas d'auteur autre que celui du livre, c'est l'auteur du livre d'Amos, de l'ensemble du livre qui est l'auteur, les auteurs, c'est un livre. Et c'est comme ça qu'il faut le lire. On ne peut jamais le lire, et c'est un peu catastrophique lorsqu'on le coupe en rondelles dans les célébrations, on ne peut jamais le lire en oubliant la fin. Si vous lisez le livre d'Amos en oubliant la fin, c'est simple, hein, vous vous flinguez. Ou vous dites, si c'est pour nous raconter des histoires désespérantes, on en a assez dans le journal le matin, ce n'est pas la peine. Il faut le lire parce qu'il faut traverser ça, mais il faut tout lire. Ça marche ? Alors, tous ces livres, dont on sait mal les auteurs, dont on sait mal les dates, ils relèvent de genres littéraires extraordinairement variés. Dans une bibliothèque, sauf si vous êtes un peu monomaniaque, et nous autres biblistes, on a un peu tendance à l'être, c'est-à-dire que la Bible et ses commentaires couvrent 10 rayons, et puis les romans policiers sont mis tout en haut, et puis les histoires, voilà. Mais sauf si on est un peu monomaniaque, dans une bibliothèque, il y a toutes sortes de genres littéraires. C'est le pape Pie XI, je ne me trompe pas, 1943, Divino Afflante Spiritu, dans l'encyclique Le Saint-Esprit soufflant, qui, le premier, a affirmé qu'on ne pouvait pas lire la Bible comme un ensemble homogène. On le savait depuis très longtemps, mais le magistère catholique, par la voix du pape la plus autorisée, une encyclique, a dit « Attention, mélangez pas tout, il y a des genres littéraires différents, une notice historique, c'est pas pareil qu'un conte. Le livre de Jonas, c'est un conte, évidemment, Jonas dans le ventre du grand poisson. Oui, voilà, c'est un joli conte, c'est un conte merveilleux, Jonas, merveilleux. Mais c'est un conte. Il y a des chants de victoire, il y a des poèmes, il y a des recueils de proverbes, il y a des textes de loi qui ne sont pas compatibles entre eux. Il y a même ce que moi j'appelle des mythes d'origine. Alors, vous avez vu tout à l'heure, en fait, c'est des reprises de mythes anciens qu'on a travaillés. Mais enfin, quand même, ça fonctionne quand même comme ça. Il y a des légendes patriarcales, il y a l'épopée, le livre de Josué. Et dans les évangiles, il y a pas des biographies, il y a le genre évangile qui est un peu inclassable. Mais il y a des actes, une histoire, l'histoire des premiers chrétiens, les actes des apôtres. Il y a des lettres, il y a un genre apocalyptique, voilà. Il y a des genres littéraires. Et chaque texte doit être lu en fonction de son genre littéraire. On ne lit pas un texte de loi comme on lit un roman policier. On ne lit pas des annales historiques comme on lit un conte. voyez ce que je veux dire? Il faut, quand on ouvre un livre, on sait, on doit savoir ce à quoi on s'attend. Si vous ouvrez une tragédie, vous savez que ça ne se terminera pas bien. Pleurez pas à la fin si vous n'avez qu'à pas lire ça. Ça va? Et ça, c'est très important. Parce qu'on lit tout ça de façon homogène, comme si tout était égal. Tout a quelque chose à nous dire, je l'ai suffisamment dit ce matin, mais on emprunte des genres littéraires différents qui ont leurs contraintes. Et ce sont ceux qui écrivent, ne sont pas des adolescents en train d'écrire leur première dissertation pour le bac. C'est des auteurs, c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont des techniques, qui ont des méthodes, et ils vont les mettre en œuvre. Quand on écrit un roman, d'abord on a appris comment ça s'écrit un roman, et on sait faire. Voilà. Il faut être attentif à ça. Toutes ces choses-là ont donné naissance à des méthodes d'études différentes, des travaux d'exégèse successifs. Alors, le monde juif a toujours lu la Bible il continue comme ça, indépendamment de l'intérêt que peut avoir son ancrage historique. Vous discutez avec un rabbin de Abraham, il se moque pas mal que ce soit au 19e, au 5e siècle, au 4e siècle. Pourquoi vous vous posez ce genre de questions? Ça n'a rien à faire. Abraham nous est quelque part contemporain. On le lit pour aujourd'hui. Et ce qui compte, c'est de faire vibrer et de faire éclater le texte par tous ses bouts. Tout ce que le texte, dans ses moindres mots, le texte, ses lettres, ses points, ses virgules, ses formes de phrases, son vocabulaire, peut nous dire. Alors, ne m'embêtez pas avec vos recherches historiques. Nous, nous sommes historiens depuis au moins le XVIIIe siècle. Ça a quand même commencé un peu avant, et de plus en plus. On est quand même imbibé de la recherche historique, d'un goût peut-être, au fond, un peu délétère et un peu dévoyé pour... Ah, mais on voudrait savoir ce qui s'est vraiment passé. Ah, mais oui. Est-ce que Jésus avait les yeux bleus ou les yeux noirs? Certainement, les yeux noirs, cherchez pas. Mais je veux dire, on a une espèce d'obsession, comme si, au fond, le fait historique était la vérité. D'abord, le fait historique, pour le récupérer, il faut se lever matin. Aller voir à Alésia, comme c'est intéressant, la relecture à travers l'histoire et l'utilisation à travers l'histoire d'Alésia, sur lequel les recherches sont encore en cours. On s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, ces tribus gauloises, elles étaient assez civilisées, qu'elles avaient des accords entre eux, qu'il y avait eu des accords avec les Romains, qu'un gars comme Vercingétorix, il avait fait ses classes dans les légions de César, etc. Bon, le fait, voilà. On est obsédé par le fait. Et en fait, le fait, il nous est transmis, et dans la Bible plus qu'ailleurs, parce que c'est un principe, par des médiations et par des gens qui relisent et qui intègrent leur compréhension des choses à la relecture. Ça va? Alors, historien de chez historien, il y a quand même des gens, à partir du XVIIe siècle, Richard Simon, etc., qui ont essayé quand même de corriger une lecture trop à plat de la Bible, parce qu'elle donne lieu aussi à du fondamentalisme. C'est-à-dire, ça s'est passé comme ça, Abraham, c'est 19e siècle, Noé, je ne sais pas si Noé a jamais existé, mais enfin... Il y a eu le déluge, alors on va le placer quand? Au moment où l'Atlantide s'est effondrée, etc. Bon. À partir du 17e siècle, on a commencé, et les Juifs l'avaient fait depuis longtemps, à se rendre compte que ce n'est pas Moïse qui avait écrit toute la Torah, enfin les 5 livres, jusqu'au Deutéronome, puisque de toute façon, le Deutéronome raconte la mort de Moïse. Alors, il y a toujours des gens pour vous dire, Moïse était prophète, il a pu raconter sa mort. Oui, d'accord. Bon. Enfin, voilà, le judaïsme l'avait dit depuis longtemps. Bien sûr, ce sont les livres de Moïse, et ils diront Mordicus, mais Moïse ne les a pas écrits. Donc, on s'est aperçu de ça, on a commencé à dire attention, ça a été écrit à des époques différentes, et on s'est mis à rechercher dans chacun des livres eh bien, ce qui était le plus ancien. C'est assez intéressant parce que ça casse l'idée que tout ne s'est pas passé comme ça, et que ce n'est pas écrit depuis la nuit des temps jusqu'aujourd'hui, avec ceux qui ont assisté à la création du monde et qui vous racontent comment c'est fait, et ceux qui ont assisté, etc. Et en même temps, il y a une obsession. Est-ce qu'on ne peut pas retrouver ce qui est le plus ancien? Ça aussi, c'est une obsession qui est la nôtre. les paroles de Jésus la plus ancienne qu'il a prononcées ce matin-là en se levant. Mais arrêtez, on ne saura pas. On ne saura pas. Et ensuite, quelle importance? Ce qui importe, c'est ses témoins et d'être les témoins aujourd'hui. Voilà. Je vous scandalise peut-être, je force le trait, mais voilà, l'idée, c'était d'en voir le plus ancien. Donc, dans Isaïe, quels étaient les oracles d'Isaïe? Dans Amos, qu'est-ce qu'a écrit le prophète du 8e siècle? C'est très bien. Et ensuite, on a isolé les couches successives, tout le travail que vous demandiez tout à l'heure, et on a essayé de les dater, voilà. Le récit de la création, Genèse 1, c'est plutôt de l'époque de l'exil à Babylone. Le récit de Genèse 2, c'est plutôt de l'époque assyrienne, donc plutôt dans le royaume du Nord, avec les Assyriens à côté deux siècles avant. Voilà, on a essayé de dater, puis de découper des couches et des rondelles, voilà. Une fois qu'on a eu toutes les rondelles, comme ce n'est pas du saucisson et qu'on ne le mange pas, on a été très triste. Qu'est-ce qui est important? La dernière rondelle ou la première? C'est tout qui est important. Donc l'exégèse qui a fait ça, pendant deux siècles, qui a découpé ces rondelles, elle a eu comme intérêt de nous montrer tout ce que je vous ai raconté ce matin et qui vient de là. Elle m'a façonné cette exégèse-là. À quel point il y a eu des relectures et comment on peut isoler plus ou moins des couches, etc. Comment il peut y avoir deux récits de la sortie d'Égypte, ou trois, qui ont été imbriqués les uns dans les autres au point qu'on n'arrive plus à les séparer dans Exode 14, etc. Elle a montré des tas de choses passionnantes, elle a fait prendre du recul, elle nous a fait comprendre le phénomène des relectures, etc. Mais, à partir du moment où, au moment où elle s'est laissée obséder par qu'est-ce qui est le plus ancien, elle n'avait plus aucun intérêt. Parce que, finalement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir fait toute cette traversée, et de se dire, mais comment l'ensemble a été rédigé en un seul bloc? Donc, on met au début d'Isaïe ce qui est à la fin, on fait un espèce d'anneau. Et quelle est la signification que lui ont donné les derniers rédacteurs? Ou quelles sont les significations accumulées qu'il nous donne à comprendre et dont il fait quelque chose? Et l'exégèse qui avait fait ce travail, qui s'est appelé historico-critique, parce qu'elle tranche dans le texte des petits morceaux, donc la critique, ça découpe des morceaux, et qu'elle est historique, elle est devenue quand même une exégèse qui s'est de plus en plus intéressée à ce qu'on a appelé la rédaction finale. Et il y a eu un moment où être le rédacteur final, c'était vraiment très mal porté. C'était vraiment le dernier des crétins qui avait tout repris et qui avait tout rédigé. Maintenant, on s'aperçoit que les rédacteurs finaux, ce sont les meilleurs théologiens, parce que c'est ceux qui ont tout engrangé et qui ont été capables de rendre à chaque chose sa place et à donner un sens à l'ensemble. Voilà. Donc on a avancé, on se sert toujours de l'exégèse historico-critique, et elle continue à travailler, ce qui nous donne des choses à découvrir dans le texte lui-même, rapport avec l'archéologie, rapport avec l'histoire, avec les comparaisons. Bon, c'est elle qui a fait ces comparaisons avec les textes assyriens et les textes que je vous ai lus tout à l'heure. Elle nous a énormément apporté. Mais il faut aussi lire la totalité des livres, et voir au fond qu'est-ce que nous apprend aujourd'hui le livre d'Amos. C'est que même au moment où tout semble perdu, eh ben, il faut tenir qu'un jour, Dieu rebâtira. Un jour, on reviendra vers la terre de Dieu. Un jour, le salut sera là. Une des dernières survivantes d'Auschwitz dit « Ce que j'ai appris, c'est que l'enfer avait une fin. » C'est que l'enfer avait une fin. C'est magnifique, ça. Ça, c'est toute la Bible. Bien sûr qu'on traverse l'enfer, et eux l'ont traversé ô combien. L'enfer, il n'est pas après la mort, il était là. Il était là, ils l'ont vécu. Eh oui, elle a dit que l'enfer avait une fin. Ben, c'est ça, la Bible. Oui, il y a l'espérance qui se dresse au bout. Voilà. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, on développe d'autres types de lectures, peut-être plus abordables pour les gens qui n'ont pas fait l'énorme traversée qui est quand même historienne, avec les langues, etc., de l'historico-critique. Vous n'allez pas vous mettre à apprendre demain matin le grec et l'hébreu, encore que si vous avez envie, c'est parfait. Et voilà. Ça, c'est un peu engrangé, et il y a des gens qui continuent. Thomas Romer, au Collège de France, fait des cours sur l'Exode, où il avance, hein, et c'est passionnant. Mais quand vous lisez la Bible, aujourd'hui, vous pratiquez plutôt cette lecture de l'ensemble d'une œuvre, ou d'un récit, ou d'un conte, ou d'un poète, ou d'un prophète, pour voir comment ça fonctionne. Et on appelle ça l'exégèse narrative, parce que ça a commencé surtout sur les récits de Samuel et des rois, qui sont des récits un peu romancés, comme des contes, comme des récits historiques. Donc on a d'abord étudié les récits, parce qu'il y avait des études sur les contes russes, etc. On a utilisé les catégories de ces études, et aujourd'hui, on essaye de plus en plus de faire fonctionner ces catégories d'études littéraires, au fond. Qu'est-ce qu'on fait à l'école en seconde, première, terminale ? De les faire fonctionner sur les textes publics, en disant on prend le texte ou ce morceau de texte comme un tout, et on voit qu'est-ce qu'il a à dire. Avec, à l'intérieur, sans écraser à l'intérieur, le fait que, tiens, il y a des choses qui ne collent pas. Il y a des choses qui sont des points de vue différents. C'est pour ça que je dis toujours, la Bible, c'est un texte en dialogue. Parce que le débat, il est présent à l'intérieur du texte. Vous avez à l'intérieur du même texte d'Exode 33, l'affirmation, on ne peut pas voir Dieu sans mourir, qui est la grande affirmation qui traverse. On ne peut pas voir Dieu sans mourir. Et le fait que Dieu parlait à Moïse face à face, bouche à bouche, comme un homme parle à son ami. Et puis, trois versets après, Moïse dit à Dieu, mais je veux te voir, je veux voir ta gloire. Ben, tu lui as parlé. Ah, dit Dieu, tu te mets, on ne peut pas me voir sans mourir. Mets-toi dans le creux du rocher, je mettrai ma main et je passerai devant. Et Moïse voit les arrières de Dieu passer sa gloire, ce qui traîne derrière. Alors, contradiction, on peut voir Dieu, on ne peut pas. Il y a eu des époques où on montait voir Dieu au sanctuaire. Après, il y a eu des époques où on est non, personne ne peut voir Dieu sans mourir. Donc, on monte se faire voir par Dieu au sanctuaire. Et on a corrigé les textes. On corrige la forme du verbe. On ne va pas voir Dieu, on va se faire voir. Les scribes ont corrigé. Anciennement, hein ? Anciennement. Voilà. Eh bien, quand on lit un texte, il faut tenir compte de tout ça. Et en même temps, au fond, le résultat final, c'est quoi ? C'est pour me dire quoi ? Peut-être pour me dire... Va pas trop vite quand tu crois que tu ne peux pas voir Dieu sans mourir, ou ne va pas trop vite quand tu peux voir la face de Dieu quand tu as eu une vision. Attention. Voilà. Voilà, donc c'est plutôt ce genre de lecture que nous pratiquons. Vous entendrez peut-être aussi parler d'une approche canonique, c'est à force de dire qu'il faut prendre des grands ensembles, on essaye maintenant de dire qu'il faut prendre la Bible comme un tout. Donc il ne faut pas lire la Genèse sans lire l'Apocalypse à la fin pour les chrétiens. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne si on lit comme un tout ? Bon, ça fait un gros travail quand même. Mais toujours penser qu'un livre biblique, il a une place, qu'il y en a un avant et un après. Si vous ouvrez le livre de l'Exode, le livre de l'Exode, c'est très extraordinaire. On a terminé la Genèse sur la famille de Joseph installée en Égypte. Parce que dans le pays de Canaan, il y a la famine. Donc ça a été compliqué, Joseph a pardonné à ses frères, tout le monde est installé là, tout va bien. On prospère en Égypte et on se multiplie. Et puis, l'Exode commence. Vint un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Alors celui-là, il va trouver que ces immigrés qui occupent un pourcentage de plus important de la population, qui font bien sûr les basses besognes, mais enfin quand même, ils sont beaucoup trop nombreux, ils sont dangereux, ils étaient peut-être un peu turbulents, ils sont dangereux, et donc on va les exterminer. Et on passe par un trou, voilà, un trou de l'histoire, où Moïse va se lever, Dieu va appeler Moïse, l'espérance va renaître. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, quand on ouvre l'Exode, qu'on vient d'un livre où, au fond, l'installation en Égypte avait été heureuse et prospère. On a été heureux un temps au pays d'Égypte. Et la figure de l'Égypte, qui va devenir très négative au début de l'Exode, elle doit garder en mémoire, dans l'ensemble ensuite des textes qui vont suivre, qu'il y a quand même eu un temps où c'était bien en Égypte. Et l'Égypte n'est pas du tout... n'a pas du tout que l'image négative qu'une seule lecture de l'Exode pourrait donner et qu'on a gardée en mémoire. Les affreux Égyptiens qu'on chante tous les veillées Pascal, il a jeté à l'eau chevaux et cavaliers. Ouais, mais enfin, avant, ils avaient vécu quelques décennies, quelques siècles dans une Égypte qui avait sauvé tout le monde parce qu'elle avait le Nil et qu'en Canaan, il y avait juste la sécheresse. Ça va ? Voilà, donc savoir qu'il y a plusieurs livres, un avant, un après, c'est toujours intéressant. Bon, alors, tout à l'heure, vous m'avez demandé, mais alors quand ? Quand même, il y a bien un moment majeur. Bon. Alors oui, quand même, je vais vous consoler maintenant. Il y a un moment où beaucoup de choses ont pris forme pour donner après un siècle ou deux ou trois, la Bible actuelle, ou en tout cas pour l'Ancien Testament, hein, le Tanakh, on va le dire, hébraïque. On a un certain nombre d'historiens des périodes anciennes, un peu ethnologues, un peu anthropologues, mais surtout historiens des temps passés, qui ont lancé une idée il y a quelques décennies que je trouve très intéressante. C'est un Allemand qui a fait ça, évidemment, je ne sais plus son nom, mais je pourrais le retrouver. Ils ont regardé les diverses civilisations connues, on n'est pas allé en Amérique, hein, autour du 6e siècle avant Jésus-Christ. Le 6e siècle, c'est 599-500. Hein, on compte à l'envers. Alors, ils sont allés voir du côté de l'Asie. C'est l'époque de Bouddha. C'est l'époque, alors en Inde, hein, c'est l'époque où Bouddha se lève en Inde et où commence la tradition de Bouddha, et du grand bouddhisme qui ensuite va donner énormément de littérature. C'est en Chine l'époque de Confucius, de la grande sagesse confucéenne, qui a tellement marqué la Chine ensuite. C'est en Perse l'époque de Zoroastre, hein, la tradition du feu, hein, la divinité du feu. C'est en Grèce le commencement de la pensée spéculative, de la pensée cosmologique, avec les présocratiques, qui cherchent une cause naturelle à la réalité. Est-ce que la cause initiale, c'est l'eau, c'est l'air, la terre, c'est l'indéfini, hein, l'infini, dit Anaximandre. Et c'est chez le monde, dans le monde qui est en train de devenir le monde juif, l'exil à Babylone et le retour sur la terre. C'est-à-dire qu'on a dans cet énorme ensemble de civilisations, depuis la Chine, en passant par l'Inde, en passant par la Perse, l'Iran, l'Irak, et jusqu'en Israël et même en Grèce, un moment où des grandes figures religieuses se sont dressées, où des grands ensembles, des grands auteurs religieux se sont dressés. Alors, les historiens expliquent ça par des raisons sociopolitiques, de affaiblissement des grands empires, montée de la bourgeoisie. Bon, je ne suis pas capable. Mais enfin, ils cherchent quand même des raisons politico-socio-économiques à cet surgissement de grandes paroles religieuses et de grandes traditions religieuses avec des hommes un peu exceptionnels ou des traditions un peu exceptionnelles. Je passe là-dessus, je ne sais pas. Mais ils se sont mis à l'appeler, pour l'Occident et l'Asie, c'est l'époque axiale. Faites-en ce que vous voulez, en tout cas. Ça marche très bien pour ce temps d'exil à Babylone, de 598 ou 588 à 538, si vous voulez compter 50 ans. En fait, ils sont rentrés plutôt vers 520. En gros, tout le 6e siècle et la suite sur un bon début du 5e siècle jusqu'en 450. C'est pour ce monde qui est en train de devenir le monde juif, le moment à Babylone d'une immense entreprise de rassemblement des traditions, de compilation, de relecture, de rédaction. Le grand récit de la création de Genèse 1, écrit à ce moment-là, contre les fêtes de Marduk, le dieu du sel babylonien, pour le démonter la mythologie babylonienne et dire « nous avons mieux ». C'est un moment de désastre, puisqu'on est en exil, qu'il n'y a plus de terre, qu'il n'y a plus de roi, qu'il n'y a plus de prêtre, on en reparlera, qu'il n'y a plus de rien. Est-ce que Dieu nous aurait abandonnés ? Ben, on est vaincu. Quand on est vaincu, les vainqueurs vous disent « votre Dieu est vaincu, ce n'est pas un vrai, ce n'est pas un bon. De toute façon, il a été vaincu, vous aussi, avec vous. » Et c'est le moment où un petit nombre affirme « non, non, notre Dieu, c'est l'unique, il n'est pas vaincu, de toute façon, c'est lui qui est le créateur et le sauveur. C'est le seul, c'est l'unique. » Et qui se mettent à, pour des raisons de survie identitaire et de volonté farouche de garder cette identité, rassembler, compiler, écrire, etc. Ils ont emporté des tas de choses avec eux, parce que ceux qui sont partis, là pour le coup, en exil, c'est pas tout le monde, c'est les couches les plus riches de la société. Le roi et sa cour, les intellectuels, les scribes, les prêtres ou grands prêtres, etc., et les artisans. Voilà. Tout ce qu'on peut déplacer, dont on peut déplacer sans problème le capital intellectuel et artistique ou technique. Tout ça a été amené à Babylone. Les paysans sont restés sur la terre. Donc c'était des gens qui avaient des choses dans la tête, qui sont partis avec un certain nombre de choses, certainement énormément de choses dans la tête. La tradition orale est très présente, et la mémoire, de ces anciens est d'une capacité incroyable, parce que tout est dans leur tête. Ceci dit, Jérémie a quand même écrit, enfin, son scribe a écrit sur des rouleaux, donc ils ont dû emmener aussi leurs rouleaux. Et donc, c'est à cette époque-là que probablement un bon nombre de choses se sont mises en route. La rédaction des différents livres de la Torah, le Deutéronome, on l'avait déjà en grande partie, je le dirais tout à l'heure, depuis un siècle, mais on l'a repris, encadré, etc. Les annales royales, on les avait, mais on a repris, encadré, développé, etc. Voilà. On avait des récits, on avait des rouleaux, on avait les rouleaux des prophètes, Isaïe, eh bien, on complète l'école d'Isaïe, on complète, on réécrit, on reprend. L'école de Jérémie, on complète, on écrit, on reprend. Voilà. C'est probablement au cœur de ce VIe siècle, et plutôt vers la fin, avec le retour et le début du Ve, que l'essentiel des choses est mis en place, compilé, réécrit, repensé. Ensuite, il y aura des ajouts, des additions, des reprises encore. Mais ensuite, on va être entré et on va s'appauvrir. Parce que sur place, à nouveau, même si les Perses sont plutôt tolérants, il faudra payer l'impôt, puis il y aura des problèmes. Puis ensuite vont venir les Grecs qui, eux, ne sont pas tolérants du tout et qui font payer très cher. On considère que la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui est le cœur de la Bible juive, ont été, au fond, bouclés vers 500, entre 500 et 450. Par le scribe, on ne sait pas s'il est scribe ou on ne sait pas s'il est prêtre, l'un des deux, Esdras, avec cette clôture. Alors, pour la première fois, on clôt un ensemble. Voilà. On clôt la Torah, on décide. Est-ce que je voulais noter ? Non. Ah, oh, je suis en train encore de retourner dans l'autre sens. Est-ce que je vous ai donné le texte d'Esdras ? Non. Alors. Bon, si je ne vous l'ai pas donné, je ne vous le lis pas parce que c'est trop long. Il y a un grand texte à ce moment-là. Non, je ne l'ai pas donné. Peu importe, je le ferai en janvier. Il y a un grand texte à ce moment-là qui est la lecture par Esdras. C'est Néhémie 8, si vous avez envie chez vous de rentrer, de lire Néhémie 8. La lecture vers 450, on ne sait pas bien le dater là aussi, mais en gros, c'est entre 480 et 430. Par Esdras, qu'on appelle tantôt un prêtre, tantôt un scribe, parce qu'il y a eu alliance entre les deux écoles. Les intellos qui graffitaient et puis les prêtres qui fonctionnaient au temple. Le prêtre scribe Esdras qui réunit tout le peuple et qui déroule le rouleau de la Torah et qui toute la matinée, devant tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, enfin tous ceux qui pouvaient comprendre, les bébés restent chez eux, lit la Torah au peuple, la donne au peuple comme la charte de l'alliance définitive. Dieu avec ce peuple, le peuple se met à pleurer, à se convertir, on lui dit « Non, 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 ne pleurez pas, c'est une grande fête, c'est la joie de la Torah. » Il y a encore une fête juive qui s'appelle Simrat Torah, qui est la joie de la Torah. Voilà. Et donc ça nous dit que c'est bouclé à cette époque-là en hébreu. Ce qui le confirme, c'est que ces 5 livres de la Torah seront traduits en grec, là on a la date à peu près exacte, entre 285 et 282, donc un siècle et demi après. Mais à l'époque aussi, pendant l'exil, on continue le livre d'Isaïe, et puis on le poursuit après. On continue le livre de Jérémie, on reprend les prophètes, Amos, Osée, on en écrit d'autres, etc., etc. Ça va ? C'est donc, voyez l'époque, en gros, il faut penser qu'on a des documents anciens très importants, mais que la mise en place de l'ensemble, c'est 6e, moitié du 5e siècle et un peu après. Alors, maintenant, des choses plus générales, avant qu'on rentre dans le détail, mais on a tout le temps, des choses plus générales pour que vous ayez, je regarde l'heure pour ne pas vous tenir trop, pour que vous ayez des idées claires sur les langues de la Bible. Quelles sont les langues de la Bible ? La Bible existe sous plusieurs formes. Il y a le Tanakh, on le redira, des Juifs, qui a été fixé dans sa lecture au 7e, 8e siècle après Jésus-Christ. Avant, il n'y avait que les consonnes. Mais fixé dans sa lecture avec les voyelles, qui est écrite en hébreu, l'hébreu ancien. À l'époque de Jésus, seuls les lettrés lisaient l'hébreu. Ça faisait 5 siècles depuis le retour d'exil qu'on ne parlait plus hébreu, qu'on parlait en araméen. Les lettrés continuaient à écrire des oracles, certains prophètes, Joël, Abdias, continuaient à écrire en hébreu. Mais même dans le livre de Daniel qui est écrit en hébreu, on a quelques petits passages en araméen, parce que la langue courante dans tout l'Empire perse, depuis 540 avant Jésus-Christ jusqu'à 330 Alexandre, ça a été l'araméen. Et Jésus parlait en araméen. Par contre, on lisait la Bible en hébreu, et la Bible, elle, est écrite en hébreu, les lettrés la lisaient, et il y avait des traducteurs qui traduisaient, ça s'appelle le Targum, oralement en araméen. Ça va ? Donc la Bible juive, elle est écrite en hébreu, quelques passages en araméen. La traduction grecque de cette Bible par des juifs, pour des juifs, à Alexandrie, dans la diaspora, les 2/5 de la Bible de la ville d'Alexandrie, d'une ville très moderne, quadrillée, etc., une ville grecque, étaient des quartiers juifs. Donc il y avait un grand nombre de juifs à Alexandrie. La Bible grecque, qui est la traduction de l'Ancien Testament par des lettrés juifs, traduction de l'hébreu en grec à Alexandrie, à partir de 285 avant Jésus-Christ, sous le roi Ptolémée Philadelphe, celle-là, elle est en grec. Donc, nous avons une traduction grecque. Alors, en fait, il y en a eu plusieurs, parce que ça a été corrigé, repris, etc. Mais enfin, qui s'appelle la Septante, parce qu'il y a une légende, évidemment, il y a une belle légende. 70 savants qui savaient le grec et l'hébreu, que le roi Ptolémée a enfermés dans l'île de Pharos, dans 70 tentes. Alors, ils étaient plus que bien traités. Hein. Il y avait la douche, le couvert, on leur servait des repas somptueux, etc. Mais ils ne devaient pas se parler. Il en a enfermé 70 comme ça, en leur disant « vous traduisez ». Et quand ils sont sortis tous avec leur traduction, le bouquin c'est ça, hein, quand ils sont tous sortis avec leur traduction, elles étaient identiques. Dieu avait parlé. C'est pas vrai, tout ça c'est pas vrai, mais c'est la légende. Et ça s'appelle la Bible des Septante, ou la Septante, si on considère qu'elle est unifiée. En tout cas, elle est en grec. Or, cette Bible, les premiers chrétiens, disciples de Jésus parlant araméen, mais très vite, bilingue parlant grec ou encore plus vite seulement parlant grec, lisaient leur Bible juive, parce qu'ils étaient d'abord juifs ces gens-là, dans la Septante. Nos évangélistes lisaient la Bible dans la Septante. Matthieu lit la Bible dans la Septante, sinon son texte ne fonctionne pas. Il n'y a plus de vierge qui attend un enfant Emmanuel, c'est une reine dans la Septante, dans la Bible hébraïque. Donc ça ne fonctionne qu'avec la Septante. Ils connaissaient aussi des targoums, donc des traductions en araméen, avec parfois des traductions en grec. Bon, ils connaissaient bien la Bible, mais la Bible des évangélistes, la Bible des chrétiens, la Bible ancienne des chrétiens, l'Ancien Testament des chrétiens, c'est la Septante, l'Ancien Testament grec. Or, vous ne lisez pas la Septante. Vous lisez la traduction de la Bible hébraïque dans la Bible de Jérusalem ou dans la Tobe, ou dans les autres Bibles. Voilà, il y a une espèce d'incohérence là. Il y a une espèce d'incohérence qui est largement due à Jérôme. Parce que, au 5e siècle après Jésus-Christ, Jérôme, encore un obsédé de ce qui était, ce qu'il y avait avant, a retraduit en latin, lui avec d'autres, a retraduit en latin la Bible hébraïque. La veritas hébraïca, la vérité était dans l'hébreu. C'est encore très à la mode hein, aujourd'hui que la vérité est dans l'hébreu. On veut trouver la vérité, on apprend l'hébreu et on lit la Bible en hébreu. On y trouve la Bible en hébreu, on n'y trouve pas la vérité. On y trouve ce qui est et ce qu'on y met. Voilà. Peu importe. Jérôme a tout retraduit en latin et c'est en fait la Vulgate. Alors, elle a été appelée Vulgate beaucoup plus tard. Hein. C'est la Bible latine qui a été la Bible de l'Occident chrétien. Donc, en fait, vous lisez une traduction de l'hébreu qui remonte. Alors, qui est parce qu'on est passé par le latin et parce que finalement, on a dit c'est bien d'aller lire la traduction de l'hébreu. Voilà. Mais la Bible de nos évangélistes, c'est quand même la Septante. Et le Nouveau Testament, lui, il est tout entier en grec. Il y a pas... Sauf, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Eli, Eli, lema sabachthani, sous deux formes différentes d'ailleurs, qui est de l'hébreu ou de l'araméen, suivant Matthieu ou Marc. Sauf Maranatha, non, c'est notre Seigneur, viens. Et peut-être Talitha koum, jeune fille, lève-toi. Et Fata aussi, vous n'avez rien d'araméen ou d'hébreu dans le Nouveau Testament. Ça marche ? C'est que du grec. Et référence à la Bible grecque, citation de la Bible grecque. Alors, on voit bien qu'au fond, il y a bien deux blocs. Il y a un bloc qui est la Bible juive, et un bloc qui est la Bible des chrétiens, 70, Ancien Testament et Nouveau Testament. Et deux façons différentes de se rapporter au livre. Là, je réponds à votre question de tout à l'heure. La Bible juive, d'abord, il ne l'appelle pas la Bible, il l'appelle le Tanakh. T pour Torah, qui est au centre, la loi. N pour Nébihim, les prophètes. K pour Ketuvim, les écrits. Au centre, alors c'est circulaire, au centre la Torah. Et c'est la chose importante. Voilà, la loi, on est juif parce qu'on obéit à la loi de Moïse. Autour, les prophètes qui expliquent la loi, qui ajoutent, etc. Autour encore des écrits, psaumes, proverbes. Et c'est très important, les psaumes. On prie les psaumes. Mais ça reste quand même autour. Et puis le judaïsme va continuer à entourer la Mishnah, la Gemara, le Talmud, qui entoure encore tout ça. D'ailleurs, le Talmud lui-même a cette forme circulaire. Il y a un texte au centre qui n'est pas le texte biblique, hein, qui est le texte de la Mishnah, et on écrit tout autour. Voilà. Toujours cette idée circulaire, il y a un texte au centre, et puis ça diffuse et ça s'accroît autour. Et on continue en commentant, en interprétant, à accroître autour. Les chrétiens n'ont pas du tout la même lecture de la Bible. Ils ont une lecture assez historique. Pourquoi ? Parce que tout tourne pour eux autour d'un moment historique, celui de Jésus mort et ressuscité, donc ce que j'ai appelé la croix et la résurrection. Et donc, ils vont lire la Bible juive des 70, qui est d'abord une Bible juive. Hein, les Juifs ensuite l'ont rejetée, mais d'abord ils l'ont lue. La Bible juive des 70, ils vont la lire en mettant une espèce d'aimant. J'ai mis une barre comme ça, mais j'aurais voulu mettre un aimant. Ils mettent un énorme aimant devant la Bible juive. Quand vous mettez un aimant, ça attire quoi ? Sur un ensemble de choses qui sont sur la table, vous mettez un aimant, ça attire quoi ? Ça attire toute la limaille de fer, la règle en fer, les épingles. Si je veux ramasser mes épingles quand j'ai renversé ma boîte d'épingles en faisant de la couture, je prends un aimant. Voilà. Et ça ne ramassera pas la poussière, malheureusement. Il faudra qu'après que je balaye. Voilà. Ils ont mis cet énorme aimant de la croix et de la résurrection devant la Bible juive des 70. Et ça a attiré à elle toute une série de choses. Alors, votre Trinité tout à l'heure, ça a attiré à elle le Dieu qui crée avec sa parole et son esprit. Voilà. Un Dieu qui va donc avoir des comparses, des mains, dira Irénée de Lyon. Ça a attiré à elle, évidemment, des textes des psaumes, qui sont d'ailleurs repris dans les récits de la Passion. Le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tout un tas d'épisodes de la Passion, le psaume 69, etc. Ça a attiré l'annonce du Messie dans les livres des rois, le serviteur souffrant d'Isaïe. Vous voyez, mais ça n'empêche que la Bible juive, elle a son autonomie et que si les chrétiens ont mis cet aimant, ça attire à eux, comme devant des promesses devant s'accomplir, un certain nombre de choses à l'image de fait, mais on peut aussi très bien les lire dans la lecture circulaire est complète en elle-même de la lecture juive. La Bible juive a son autonomie et peut être lue pour elle-même. Et elle est lue pour elle-même dans le monde juif. Les chrétiens s'en mêlent, essayent de la lire pour elles-mêmes. Toujours, je le fais aussi, c'est toujours un peu malhonnête. On se refait pas. Évidemment qu'on a derrière la tête un petit vernis chrétien qui influe sur tout ça. On essaye de rendre à la Bible juive son autonomie. Mais quand même, à mon avis, on triche toujours un peu. Bon, ça c'est mon avis. Voilà, donc les chrétiens, eux, l'ont relu sous le mode d'annonce et d'accomplissement, donc sur un mode historique, alors que la Bible juive, elle se moque de l'histoire, on entoure. Ils l'ont relu sur un mode historique parce qu'il y a le pivot, ou l'aimant, qui est la croix ou la résurrection de Jésus. Ça va ? Et donc, on va avoir, chez les chrétiens, une organisation différente. La loi d'abord, puis ce qu'on appelle les livres historiques. Donc, en fait, ça fait partie des Ketuvim, des écrits, ou plutôt des prophètes premiers pour les juifs. On met les écrits là, alors que pour les juifs, ils sont autour. Et on met les prophètes en dernier. Pourquoi ? Parce que c'est chez les prophètes qu'on a le plus d'éléments qui permettent d'annoncer Jésus-Christ. Le dernier prophète en date, Malachie, est le dernier dans les classements chrétiens de la Septante. Malachie annonce le messager qui va venir préparer les voies du Seigneur. Voici que j'envoie mon messager, préparez tes voies. Vous ouvrez Matthieu Et le messager apparaît, c'est Jean-Baptiste qui vient préparer les voies du Seigneur. La couture est faite à gros points. Donc on met Malachi en dernier, comme ça on est sûr de la couture. Ça va ? Voilà. Donc il faut accepter que ce n'est pas... Ce sont deux choses hétérogènes que la Tanakh juif a sa propre cohérence et doit être lu pour lui-même. Il est lu par les juifs autrement pour lui-même. Et que la lecture chrétienne reste une lecture d'abord des textes grecs et ensuite une lecture différente à la lumière de Jésus-Christ, même si on peut faire un effort pour dialoguer et essayer de comprendre l'autre. Un tout petit mot, mais ça je ne vais pas m'attarder. Ceci que je viens de dire explique les différences de classement des textes dans les Bibles différentes. Si vous comparez la Bible de Jérusalem et la Tob, traduction œcuménique de la Bible, vous allez vous arracher les cheveux très rapidement. Au début, tout va bien. On a les cinq livres de la loi, là, ça correspond au Pentateuque grec. Ensuite, on a encore Josué et Juge, ça va. Ensuite, on a 1-2 Samuel et 1-2 Rois, ça va. Et après, catastrophe. Et après, catastrophe, on n'a plus du tout le même ordre. Pourquoi ? Eh bien, parce que la Tob reprend la tradition de lecture d'ordre juif, si on peut parler d'un ordre, la Torah au milieu, donc la Torah en premier, parce qu'il faut bien le mettre dans la Torah en premier, les prophètes ensuite, les écrits ensuite. Tandis que la Bible de Jérusalem suit l'ordre de la Septante, qui était déjà un ordre historique, parce que de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas d'ordre, c'était des rouleaux. Les rouleaux, vous ne les mettez pas en ordre. Et que les premiers textes qu'on a de la Septante sont des textes chrétiens. Donc c'est les chrétiens qui ont mis l'ordre qui les intéressait. Ça va ? Voilà, je m'arrête là, j'ai dépassé l'heure. Je vous donne 5 minutes de questions et après je vous libère pour le déjeuner. Vous retrouverez toutes ces listes dans votre dossier, hein, vous inquiétez pas. Hein. Vous avez tout ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Ou est-ce que vous n'en pouvez plus ? Oui ? Les écrits, les psaumes, les proverbes, Job, les cinq rouleaux, le cantique, lamentation, Kohelet, je dirais une bêtise, Ruth et je sais pas quoi. Et puis tous les autres écrits, les chroniques, Daniel, etc. Tout ce qui n'est pas les cinq livres de la loi et les prophètes. Dans les prophètes, le judaïsme compte les livres de Samuel et des rois. Il les appelle les prophètes premiers. Parce que dedans, on parle d'un certain nombre de prophètes, Élie qui n'a pas écrit, Élisée, Nathan, etc. Voilà. Ce sont des livres importants dans le judaïsme. Et il y a même des livres que le judaïsme n'a pas retenus dans son canon. Tobie, Judith, parce qu'ils ont été essentiellement, même s'il y a des textes hébreux, écrits en grec. Or, ils ont très très bonne presse dans le judaïsme. Judith, ça veut dire la juive. Et c'est une des femmes flambeaux du judaïsme qui a coupé la tête quand même d'Holoferne. Voilà, et qui a sauvé le pays. Donc, il y a des livres très lus qui n'ont pas été retenus dans le canon. Hein. Alors, pour des raisons diverses, on en reparlera. Autre question ? De quand date l'idée d'un peuple élu ? Mais du commencement, quand on considère que Dieu a sauvé son peuple de la main de la servitude des Égyptiens pour se donner un peuple qui me servira sur la montagne. Dieu se donne un peuple en sauvant quelques-uns. Et on reporte ça sur Abraham, que Dieu a choisi pour qu'il soit le père d'un peuple innombrable. Donc depuis le début, Dieu qui passe par des médiations, passe par un homme, des hommes, des tribus, un peuple. Hein ? Il est élu parce que ça passe par lui. Alors pourquoi vous n'êtes pas le peuple élu ? Ben parce que ce n'est pas passé par vous, tant pis. Hein ? Ce n'est pas triste. Vous êtes quand même aimé de Dieu. Mais oui. Mais c'est très important. Mais ça ne veut pas dire que vous avez à être jaloux du peuple élu. Le peuple élu, c'est lui qui nous a transmis ce Dieu en quête de l'homme. Ça marche ? Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que vous en avez assez ? Alors, il est midi et quart. On va déjeuner, vous allez déjeuner, souffler un peu. Est-ce que vous êtes d'accord ?